Je vais te laisser la place, je vais juste prier un tout petit instant pour toi, pour le message. Seigneur, merci parce qu'on a la chance immense d'être ici réunis un dimanche matin en toute liberté. Et puis vraiment, un grand merci pour ça. Et puis je te prie pour Emmanuel, pour la parole qu'il va apporter, pour que ça nous parle à tous et que ça touche dans nos cœurs, Seigneur. Amen.
Merci. Bonjour à tous. Voilà, c'est sympa d'être parmi vous, une salle bien remplie. C'est encourageant. J'étais il y a quelques jours en Afrique, au Burkina Faso, pour un séminaire. Alors, quand j'ai demandé tout à l'heure combien de temps j'ai, il me dit 20, 25 minutes. Je dis parce qu'en Afrique, si on ne prêche pas au moins une heure, ils ne sont pas contents. Hein. Le président en rajoute une sauce. Alors, je me suis dit, il faut juste que je me remette dans le bain. Sinon, les gens de Villa ne vont pas être contents, eux non plus. Alors, deuxième chose qui change pas mal, c'est le niveau sonore. J'étais dans une église là pour un séminaire, il y avait peut-être 600 personnes. Je pense que le niveau de décibels devait être à peu près autour des 120 décibels, plus qu'un bon gros concert rock chez nous. Hein. Mais ce qui est intéressant, et puis ça sature à fond, c'est rigolo, ceux qui n'ont jamais été en Afrique, ils ne connaissent qu'une position, c'est les boutons à droite, hein, à fond, à tout, sono, partout, alors ça sature tout ce qu'on veut, mais ça donne un style particulier. Mais ce qui était intéressant, c'est quand les gens chantaient, ça couvrait la sono. Quand l'assemblée, j'étais avec 13, enfin on était 13 de Suisse, et les gens étaient ébahis, certains en pleuraient. Ils disaient ça chantait plus fort qu'une sono aussi forte qu'un concert rock, quoi. Et les gens chantaient plus fort, ça dansait, les gens, les aînés, les jeunes. Ah, il y avait une belle image de jeunes et vieux danseront ensemble. Enfin voilà, c'était quelques images comme ça. Alors on se remet dans notre contexte suisse, hop, c'est bon. Non mais je suis venu à pied de la gare, j'ai eu le temps de me refroidir un petit peu là. Et puis, c'est pas vrai, on a des tas de valeurs en Suisse qu'on ne doit pas mépriser, au contraire, dont on doit être fier, mais il ne faut pas perdre les richesses que les autres ont à nous apporter. Bon, le thème d'aujourd'hui, c'était les faux prophètes, ou les prophètes loups ou agneaux, comme l'a dit. Tout à l'heure, c'est le thème qui m'a été donné, et puis les versets, c'est dans Matthieu 7, versets 15 à 20, on va les lire ensemble. Matthieu 7, 15 à 20. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Quand Christophe m'a donné ce thème, je me suis dit, bon, ok, ça peut être sympa comme thème. Puis j'ai eu une réflexion assez rapidement. Je me suis dit, qu'est-ce qui a amené l'équipe du culte 4D à vouloir ce thème? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez une suite. Ou... Ah, c'est le planning de l'Église, c'est encore mieux. Ok, c'est le planning de l'Église. Puis je me suis posé la question, alors, qu'est-ce qui pousse ceux qui ont décidé ce texte, de réfléchir sur ce texte. Et une des notions négatives qui m'est venue à l'esprit, j'ai un petit peu l'esprit tordu, puis des fois j'ai plus de facilité à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, ce qui est plutôt embêtant et un défaut, mais enfin, voilà. Et je me suis dit, est-ce qu'ils sont en train de chercher des poils de carotte? Des gens à montrer du doigt. Ça a été ma première réflexion. Je me suis dit, pourquoi veut-on découvrir les faux prophètes, entre guillemets? Est-ce que c'est réellement parce qu'on est inquiet de tomber dans une hérésie? Ou est-ce que c'est parce qu'on est bien du bon côté et puis qu'on peut bien les montrer, ceux qui se trompent à l'autre bout? Voilà, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas ça. Je voulais juste cette petite réflexion en introduction et qui peut-être fera cheminer dans vos esprits le pourquoi on a parfois envie de réfléchir sur ces choses. En lisant ce texte, une deuxième chose m'est venue à l'esprit, aussi en lien avec ce que je vis, immanquablement, hein, en tant que prédicateur, nos messages sont remplis de ce qu'on vit, hein, heureusement, sinon ça perdrait de sa valeur. Et je me suis dit, mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12 hein, nous le dit. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre des êtres humains, mais contre des puissances.
Et si on prend ce passage de l'Éphésiens 6, qu'on peut lire ensemble, c'est quand même intéressant ce que nous dit l'apôtre Paul. Là, avant, c'est Jésus qui parle, maintenant c'est l'apôtre Paul. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et je me suis dit, on ne peut pas faire la chasse aux sorcières, entre guillemets, aux faux prophètes, sans garder à l'esprit que la problématique n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui est derrière. Et je crois que ça peut paraître bateau, hein, ce que je vous dis là, c'est une grosse évidence, vous allez me dire. En attendant, on a tellement vite fait de s'achoper aux relations humaines au lieu de combattre efficacement ce qui manipule derrière la nature humaine. Et je me disais, ce qui est fondamental, ce n'est pas tant des personnes qui pourraient incarner ces faux prophètes, je vais peut-être un peu vous décevoir dans mon analyse de ce texte, mais les paradigmes, les pensées, les mécanismes de pensée qui sont derrière et qui, eux, nous induisent et nous amènent très subversivement, très sensiblement à penser autrement que le projet de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de la grenouille, hein, ou si vous ne la connaissez pas, je vous la raconte. Si vous voulez cuire une grenouille, il ne faut pas la prendre et l'acheter dans une casserole d'eau bouillante, elle va instantanément sauter hors de la casserole. Par contre, si vous la mettez dans une casserole d'eau tiède et que vous chauffez votre gaz ou votre électricité tranquillement, la grenouille va se laisser cuire, gentiment, parce qu'elle va apprécier cette douce chaleur ambiante. Hein. Et c'est, on est par la même chose. On se laisse cuire, complètement cuire, par la mentalité du monde, par le prince de la puissance de l'air, qui lui manipule les faux prophètes, qui sont les vecteurs, les porteurs de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'a pas à lutter contre des personnes, on n'a pas à chercher à cibler tel et tel, ou même tel bouquin. Il y a eu un moment, il y avait des tas de bouquins, là, les chasses aux sorcières, cherchant les séductions et compagnie. Ça fait plus de dégâts que de bien. Parce que ça donne juste un sentiment de propre justice à ceux qui ne sont pas mêlés à ces choses-là. Et puis, ça ne donne pas grand-chose de positif dans le changement du cœur profond. Alors que les mentalités, les paradigmes de notre société, de notre vie, qu'on nous inculque depuis tout petit, dans nos familles, à l'école, ça, c'est drôlement des faux prophètes. Ça, c'est drôlement des mentalités qui nous amènent à l'opposé du principe de Dieu. 2 Corinthiens 10, 4 à 5 nous dit « Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. » On revient sur le même point. « Ce sont des armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire quoi ? Les ennemis, tous ceux qui nous embêtent ? Non. Des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. » Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Là, j'ai l'impression que l'apôtre Paul donne en deux versets le résumé de Matthieu 7, 15 à 20. Il dit, notre combat, il est contre des forteresses mentales et spirituelles. Ton combat, mon combat contre les faux prophètes, contre les fausses doctrines, c'est là-dedans que ça se passe. C'est là-dedans que ça se passe. C'est pas avec une kalachnikov pour dégommer tous ceux qui penseraient autrement ou qui seraient apparemment dangereux. C'est en nous qu'est le danger. L'apôtre Paul nous dit que ce sont des forteresses intérieures contre lesquelles nous avons des armes puissantes qui sont des armes de Dieu, de l'Esprit, pour détruire ça. Et quoi ? Tous les faux raisonnements. Ah purée, on en a. On en a un paquet de faux raisonnements. Quand on voit la société maintenant, les mariages gays avec la possibilité d'avoir des enfants pour des couples gays, enfin, quand on voit toutes ces choses-là qui sont tellement en opposition avec l'éthique, avec l'état d'esprit du royaume de Dieu, mais même avec la nature humaine, tout simplement, et les dégâts que ça va amener dans 15 ans, dans notre société. Quand on regarde les changements de paradigme de mai 68 et des dégâts que ça a provoqués dans la société, aujourd'hui, on en récolte les fruits, eh bien ça, ce sont des forteresses à abattre. Là, il y a réellement un combat spirituel et des faux prophètes à dégommer à l'intérieur de nous. Hein. Parfois aussi, bien sûr, qu'il y a des gens qui sont les tenants de ces choses, mais j'avais envie et il me semblait que c'était plus important de mettre l'accent sur notre propre problématique à nous laisser séduire Pourquoi est-ce que je me laisse séduire? La séduction existe partout. Si on regarde Jésus, combien de fois il a annoncé la séduction? Il a même dit que ça serait une des choses les pires dans la fin des temps. Que la séduction séduirait même les élus si c'est possible. C'était Serge Tarasenko, le physicien nucléaire que vous connaissez peut-être comme serviteur de Dieu, qui disait « Le jour où la séduction ne séduit plus, c'est que c'est plus une séduction. » Ça paraît bateau de nouveau, mais c'est tellement profond. Le jour où la séduction ne te séduit plus, c'est que c'est plus une séduction. La séduction vient te chercher là où tu es séduisible. La séduction vient me chercher là où je suis séduisible. Elle ne vient pas me chercher avec des gros trucs qui n'ont rien à voir. Hein. Le diable, la fourche, la grosse queue, les cornes, ça ne m'impressionne pas beaucoup. Par contre, mammon, ça c'est déjà plus difficile. Hein. Ou la convoitise, ou le désir de plaire. Ah, là, ça, c'est des sujets qui commencent à me parler. Hein. Ça commence à me séduire. Et là, l'ennemi vient. Et le Seigneur nous prévient que nous avons à faire attention à la séduction et les fausses doctrines qui vont nourrir cette séduction et nous amener ailleurs. Ce qui est intéressant, si on prend ce verset de Matthieu 7, 15 à 20, c'est qu'il est entouré, comme toujours, étonnamment. Les versets sont toujours entourés d'un avant et d'un après. Hein. Et puis si on prend les versets qui précèdent, évidemment les chapitres qui précèdent, c'est le sermon sur la montagne dont je n'oserais rien dire en présence de Claude Bécher, mais voilà. Si vous avez des questions sur le sermon sur la montagne, vous lui demandez. Je suis venu à son cours qui était une petite merveille, il y a quelque temps dans cette salle. Mais c'est entouré de... le prélude, c'est ce sermon sur la montagne. Tellement pratique, tellement concret, tellement interpellant dans mon quotidien. Et juste les versets avant, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ensuite, le verset sur les faux prophètes. Verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons ? N'avons-nous pas en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Intéressant. Le passage qui nous met en garde contre les faux prophètes qui amènent des fausses doctrines et des faux raisonnements est entouré de deux choses. Entrer par la porte étroite et être réellement membre du royaume de Dieu. Puisque dans la suite, il dit, je ne vous ai jamais connu, vous n'êtes pas entré dans mon royaume. Hein. Il dit, tous n'entreront pas dans le royaume. Et je me suis dit, est-ce que l'enjeu du vrai ou du faux prophète n'est pas le royaume de Dieu, la porte étroite qui amène à la vie? Le réel danger n'est-il pas tout ce qui m'empêche de vivre une vie pleine en Christ, une vie fondée sur les principes du royaume de Dieu? Tout ce qui m'empêche de vivre ça est fausse doctrine, est source de faux prophètes ou d'inspiration démoniaque, évidemment. Tout ce qui n'est pas, qui ne m'amène pas à avoir une vie qui est conforme au royaume de Dieu, qui ne m'amène pas à rentrer dans la vie par cette petite porte, me détourne du projet de Dieu et quelque part est une fausse doctrine. Ah là, on arrive tout d'un coup dans nos domaines, hein. Et là aussi, on peut se dire, mais attention, les problèmes ne sont pas forcément là où on les pense. Et Jésus, dans Matthieu 7, au verset 15, dit, attention, ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le Seigneur nous met en garde que ce n'est pas ce qui frappe les yeux, dans sa parole, et là encore. Ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux, apparemment, parce qu'encore, il y a une belle... un beau panier de fruits, là, pour illustrer les fruits dont on reconnaît l'arbre. Mais quelque part, quand vous voyez celui qui est habillé en mouton, si le déguisement est vraiment bien fait, on a de quoi se laisser prendre. L'apparence est parfois trompeuse. Les fruits peuvent avoir l'air bons, mais avoir des vers dedans. Ça ne suffit pas, ça. Et le Seigneur, là, dans le verset 15, nous dit, attention, ce que tu vois ne suffit pas. Luc 11, 52, nous dit « Malheur à vous, maître de la loi », c'est Jésus qui parle. « Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir, vous n'entrez pas vous-même et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. » Le verset parallèle dans Matthieu 23, 13 nous dit « Vous empêchez d'entrer dans le royaume des cieux. » « Malheur à vous, maîtres de la loi, brebis, apparemment. » Les maîtres de la loi, apparemment, étaient ceux qui savaient, qui pouvaient guider, qui pouvaient conduire. Mais vous n'entrez pas vous-même dans le royaume de Dieu et dans les connaissances que je vous ai données par le savoir, par la parole. Mais pire que ça, vous empêchez ceux qui voudraient y entrer. Et là, tout d'un coup, le faux prophète prend peut-être un visage très différent. Ce n'est pas juste le tenant de la théologie de l'abondance aux États-Unis, où il est facile de critiquer, alors qu'on l'analyse peut-être peu, les vrais discours, ou bien celui qui remet en question ce qu'on a toujours fait. Ah, ça on aime, hein, les dégommer ceux-là. Ceux qui nous disent de faire autrement, ça on n'aime pas. Parce qu'on pense que qu'en faisant autrement, on fait juste, alors qu'il y a peut-être juste très longtemps qu'on fait faux, tout simplement. Peut-être des siècles qu'on fait faux. Et puis on continue, et on continue. On continue de suivre les fausses brebis déguisées, mais qui à l'intérieur nous empêchent réellement d'entrer dans le royaume de Dieu. Attention à ce qui frappe les yeux. Les fruits, maintenant, on arrive aux fruits, hein, évidemment, puisqu'on en a déjà un peu parlé. Les fruits, c'est le résultat normal, le produit d'une action, d'un état, hein, un arbre, un pommier portera du fruit, on a notre vigneron. Hein, quand tu fais tes greffes, quand tu fais ce que tu as mis, si tu as mis du pinot, ça va, il y aura du pinot, hein, ce ne sera pas du grenache. Hein, voilà, si on veut changer de cépage parce que ça se vend moins bien, ben, il faut tout arracher, tout replanter, attendre quelques années, et puis avoir le cépage qu'on veut. Donc l'arbre, la nature nous montre bien ça, et la parole nous le dit. Elle le fait aussi des images avec les sources, une eau. De source douce ne peut pas donner de l'eau salée, ainsi de suite. La Bible est assez claire sur le fait que la cause à effet produit l'effet escompté. Donc, ce que tu es va produire du fruit à long terme. Tu peux cacher un moment. Comme je le disais, il y a des brebis, des fausses brebis, on peut se cacher un moment. On peut même se cacher en façade. Mais si la personne se donne le temps de connaître, eh bien, on verra les failles. On va voir ce qui ne va pas. On va voir ce qui n'est pas la bonne odeur du royaume de Dieu. On va voir ce qui n'est pas... Ah, là, on sent qu'on est en présence du Christ lui-même, hein, qui habite dans mon frère, dans ma sœur. On sent cette bonne odeur, on sent cet état d'esprit du royaume. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, il y a toute la théologie, il y a tout ce qu'on veut, tout est là, la cravate, tout, mais ça ne sent pas bon. Hein. Ça sent le renfermé. On dit qu'il faut un petit coup de fraise, là, ou fébraise, là. Il faudrait un petit peu... Enlever ces odeurs-là, hein, les couvrir, mais ça ne suffit pas. Hein, il faut autre chose pour enlever ces odeurs-là que simplement un petit spray. Et donc, le fruit, c'est le résultat normal de ce que tu es. Tu vas porter les fruits de qui tu es. Tu vas faire les actions qui sont conformes à tes paradigmes. Souvent, je dis ceci, ce que tu crois, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Tu dis que tu as confiance en Dieu, mais tu as 25 000 assurances, tu as même une réassurance... au cas où toutes les autres ne marcheraient pas. Et puis, le comble, on a des assurances vie. Ça, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, vous allez me dire, c'est des placements, patati patata. On a réussi à justifier tout ça. On est très, très bon en Suisse pour justifier nos manques de confiance. Je reviens d'Afrique. Les amis avec moi disaient ce qui nous a frappé, c'est la confiance. Ces gens ont confiance. Ils n'ont pas le choix. Ils ont 5 francs. Ils vont construire 5 briques. Alors, vous arrivez, tout est en construction, partout. Puis j'avais un ami avec moi, patron d'entreprise, il venait fou, lui, parce qu'il dit, mais c'est pas possible, ils prévoient pas. Je dis, non, ils prévoient pas, ils ont 5 francs, ils construisent avec 5 francs, et ils attendent d'avoir 5 francs pour construire la suite. Mais ils y vont. Nous, on attend d'avoir tout et on n'y va pas. C'est ça le problème. On attend d'avoir tout. Si on ne peut pas construire la maison et la finir avec les fioritures, on ne fait pas. Eux, s'ils ont la moitié des briques pour commencer, ils commencent. Et Dieu pourvoira et on verra quand. Mais c'est un exemple pour nous de confiance en l'avenir, de confiance dans le Dieu qui pourvoira. Nous, on veut tellement tout sécuriser, mais on dit qu'on a confiance, on le chante, ou on le ment. Quelqu'un disait, hein, les plus grands menteurs, c'est les chrétiens dans leurs cantiques. Hein. Ils chantent que des choses qu'ils ne font pas. J'espère pas que, hein, c'est Richard Toupin, le chanteur canadien, qui disait ça. Hein. Il a même mis en chanson. Hein. mais c'est quand même interpellant. Le Seigneur nous invite à plein de choses, mais ce que l'on est réellement va porter du fruit. Qui tu es va se voir. Si tu es un homme, une femme de Dieu, ça doit se voir, ça va se voir. Si tu n'en as que le discours, que dalle. Paul dit, je ne viendrai pas seulement avec un discours, mais avec une démonstration de puissance. La démonstration de puissance peut être les miracles. Amen, il y en a encore et on en veut. On en a vécu en Afrique. On a vu des choses superbes. On en vit en Europe. Ok, mais il n'y a pas que ça. La démonstration de puissance, c'est aussi être à contresens des faux prophètes, du faux courant de mentalité qui nous amène loin du royaume de Dieu. Ça demande une sacrée puissance, une sacrée colonne vertébrale, une sacrée force intérieure par le Saint-Esprit. Si tu ne l'es pas en Christ, tu ne pourras pas jouer. Dès que ça va souffler, tu vas gicler. Il faut être accroché pour que ça tienne. C'est les feuilles mortes qui sont ballottées au vent. Les feuilles vivantes, elles sont attachées à l'arbre. Elles sont attachées. Elles portent du fruit. Donc le fruit, c'est le résultat. Le mauvais fruit, c'est tout ce qui n'est pas résultat du royaume. 2 Timothée 3, 1 à 5. Ils seront, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Vous pourrez lire ça à la maison, 2 Timothée 3, 1 à 5. Une description de la fin des temps. Une description de la mentalité de la fin des temps. Alors, il y a des choses qu'on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Égoïste ? Ben, vous avez de la chance si vous n'avez pas ce problème. Moi, je l'ai. Je lutte. Et puis, c'est drôlement européen, drôlement suisse, l'égoïsme. La famille suisse, c'est moi, mon épouse, mes enfants, puis ça s'arrête là. Les familles larges, on prend encore les grands-parents. Allez en Afrique, la famille, C'est autre chose, C'est autre chose, la famille. Mais on n'est pas égoïste. Non, on n'est pas égoïste. Amis de l'argent, j'en ai déjà dit quelques mots. La Suisse, au moins, il y a un sujet, je pense, où on est au clair. C'est qu'on est amis de l'argent. Ça, au moins, on le sait. Fanfaron, hautain, blasphémateur, bon, ainsi de suite, plein de choses. Mais puis à la fin, ayant l'apparence de la piété, vous comprenez bien ce que ça veut dire, on joue. Quand je dis jouer, ce n'est pas dans le sens négatif. On essaye d'être. On essaye d'être un bon chrétien. On essaye d'avoir la piété. Mais on a renié ce qui en fait la force. Parce que ce qui en fait la force, c'est la connexion à lui. C'est la connexion à lui. C'est être citoyen du royaume parce que connecté au roi. Parce que obéissant au roi. Parce que disciple du roi. Et toutes les actions dans nos vies qui ne portent pas la marque de la royauté de Dieu, c'est des mauvais fruits. Et c'est beaucoup plus que la théologie de l'abondance. C'est beaucoup plus que la théologie extrême de certains milieux gouroutistes ou autres qu'on rencontre chez nous et des manipulations de foule ou tout ce qu'on veut. C'est très facile de pointer du doigt ces choses-là. C'est beaucoup plus difficile de pointer dans notre vie ce qui nous éloigne du royaume de Dieu. Ce qui nous amène, à cause de nos raisonnements, de nos mentalités, à penser autrement que comment pense le roi. Et les bons fruits, c'est justement tout ce qui découle, tout ce qui vient du royaume de Dieu. Tout ce qui a sa source en lui. Vous avez dans Ézéchiel 47, sauf erreur, ou 37, je ne sais plus, le fleuve, ce fleuve qui coule, qui sort du trône de Dieu et qui amène la vie. On retrouve ce fleuve dans l'Apocalypse, à la fin, qui amène la guérison des nations. Les feuilles servent à la guérison des nations, ils portent des fruits tous les mois. Parce que le fleuve prend sa source dans le trône de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où la royauté de Christ est réelle, où les gens sont disciples doulos, esclaves du Christ. Ont la mentalité du Christ, sont marqués au fer rouge, non seulement dans la peau, comme le bétail, mais dans l'esprit, comme un disciple du Christ, des pensées, la mentalité du royaume de Dieu. Ça, c'est la garantie anti-faux prophète. Ça, c'est la garantie. C'est soi-même être connecté à la vie de Dieu, à la mentalité de Dieu et se laisser continuellement nettoyer par ce fleuve qui coule de tout ce qui en nous n'est pas conforme à lui. Et pour ça, il y a une seule solution. C'est pas tonton, c'est pas le pasteur, c'est pas le voisin, c'est toi à genoux ou assis comme tu veux, confortablement ou pas, peu importe, mais c'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. Connecté à lui, qu'est-ce qu'il te dit ? Je suis atterré, frères et sœurs, atterré du nombre de chrétiens en Suisse romande qui, quand on fait des exercices d'écoute de Dieu, me disent « c'est la première fois que je l'entends ». Purée ! Mais c'est catastrophique, ça ! Les gens qui disent « ah, mais c'est la première fois que j'entends Dieu me parler ». Il y a combien de temps que tu es chrétien ? 15 ans, 20 ans, 5 ans, 3 mois, 15 ans, 30 ans ? Et tu n'entends pas ? Comment tu veux obéir au roi ? Comment tu veux avoir la mentalité du roi ? Comment tu veux faire ce qu'il te demande si tu ne l'entends pas ? Si tu n'es pas connecté à lui ? Comment tu veux piéger les faux prophètes si tu ne connais pas les vrais billets ? Comment tu veux connaître les faux ? Vous connaissez ça, les banquiers à l'époque, hein ? Ils disaient, pour reconnaître les faux, on devait manier des vrais. On touchait des dizaines de milliers de vrais billets et tout d'un coup, le faux, on le sentait. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce que la sophistication a augmenté. Donc, il faut être encore plus connecté que dans le passé. Si tu n'es pas connecté à Dieu, ce n'est pas un bouquin qui te sera une garantie contre les faux prophètes et contre les fausses pensées. Ce n'est pas une théorie qu'on va venir donner au groupe de jeunes ou à l'église qui va te donner une garantie. La seule garantie, c'est la connexion à Dieu. Que ta vie soit l'expression des principes du royaume de Dieu. Et je terminerai avec juste quelques aspects dans Matthieu 13. On n'a pas le temps passe vite. Hein. C'est un chapitre sur les mystères du royaume. Et puisqu'on a parlé du fait que c'était cette mentalité du royaume, c'est intéressant de voir dans Matthieu 13, juste quelques versets, où Jésus parle des principes du royaume et des mystères du royaume de Dieu. Ce qui est intéressant au verset 11, c'est qu'il dit ceci, Jésus répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que ça ne leur a pas été donné. » Dieu veut nous révéler les mystères. Dieu veut révéler à ses disciples les mystères du royaume de Dieu. Et au verset 15, il dit, en parlant des autres, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Et au verset 23, Il celui qui a reçu... Non, ce n'est pas le verset 23, pardon, c'est un peu plus loin. Après le 15, ça c'est autre chose. À la fin du verset 15, il dit « De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et là, il y a quelque chose d'important. Dieu s'intéresse au cœur. Est-ce que Jésus est en train de dire « Le cœur des gens est insensible. Est-ce que mon cœur est sensible ? Est-ce que ton cœur est sensible ?» Quand on a visité un hôpital de Brousse, enfin un dispensaire, deux dames n'ont pas pu rentrer. Elles pleuraient, c'était trop fort. Il y avait un bébé qui était né une demi-heure avant, il y avait des poules à côté qui picoraient par terre, hein, assis là, la maman couchée sur sa natte sale, et puis le bébé à côté. Et puis des... voilà. Est-ce qu'on a un cœur sensible pour la souffrance, pour la pauvreté, pour la misère ? Est-ce qu'on a un cœur sensible pour la pauvreté, la misère suisse, qui elle, à un autre niveau, à autre chose, on est d'accord ? Mais est-ce qu'on a un cœur sensible ? Est-ce qu'on a un cœur sensible pour le roi ? Est-ce qu'on pleure quand le roi pleure ? Est-ce qu'il t'arrive d'être ému de compassion, tu ne sais pas pourquoi, mais simplement parce que tu passes un temps dans la présence de Dieu et que Dieu te montre qu'il souffre pour le monde ? Est-ce que tu es sensible ou est-ce qu'on est devenu insensible et qu'on est peut-être du mauvais côté en croyant qu'on est du bon ? Le Seigneur veut nos cœurs. Tout le sermon sur la montagne, c'est ça. Hein ? Le Seigneur veut nos cœurs au verset 23 et il veut nos cœurs pour les guérir. Il veut les guérir. Il ne veut pas seulement nous laisser comme ça. Il veut nous guérir pour nous rendre sensibles, pour nous rendre perméables à ce que lui a envie de transmettre. Le verset 23 nous dit « Celui qui a reçu la bonne semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en porte 30, 60 ou 100. Il a reçu la terre et il la comprend, la semence et il la comprend. » Entendre la parole de Dieu, la comprendre et agir. Ça, c'est le principe de Dieu. Tout ce qui s'oppose à ça dans ta vie, c'est une fausse doctrine. Jacques 1, 22 nous dit que celui qui a la théorie, mais pas les actes, est un menteur. Il n'a pas la vraie foi. Matthieu 7, 24, passage qu'on a lu tout à l'heure, hein, 7, 24 nous dit ceci. C'est la suite encore de ce qu'on a lu. Hein. Il parle d'une autre parabole. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Pas seulement qui entend. Ça a été la grande théorie évangélique depuis un siècle. Écoute, crois, intellectuel. Dieu nous dit, écoute, crois, et je veux ton cœur. Tes émotions, ça ne suffit pas la tête. Il faut que ça descende dans le cœur. Et ça va encore plus loin, où il nous dit, je veux ta tête, Je veux que tu comprennes ce que tu crois, mais je veux que tu le vives dans tes tripes, je veux que tu le vives dans ton cœur, que ton être intérieur soit changé, que tes paradigmes profonds, tes mentalités soient transformées, mais ça doit se voir par des actes. Ta vie doit être différente. Matthieu 28, 20. Allez, faites de toutes ces nations des disciples. Enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à obéir, à agir conformément à tout ce que je vous ai enseigné. On s'est arrêté à enseigner. Le Seigneur nous dit, faites des gens qui obéissent. Faites des disciples des gens qui obéissent, pas seulement des gens qui connaissent ce qu'il faudrait faire mais qui ne le font jamais. C'est Carlo Brugnoli qui disait ceci. À l'époque où il était responsable des formations de GEM, d'évangélisation, il dit on a évangélisé, 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 et on a formé des tas d'évangélistes. Aujourd'hui, il disait ça il y a déjà quelques années en arrière, il disait, aujourd'hui on fait des écoles d'évangélisation où on a des experts qui nous apprennent comment évangéliser, et on forme des experts qui apprennent à d'autres comment évangéliser. Et parfois j'ai l'impression que notre Église occidentale, prise dans une fausse doctrine, se dit ce qu'il faudrait faire, mais plus personne ne le fait. Plus personne ne le fait. On sait tout ce qu'il faudrait faire, on sait très bien l'expliquer aux autres, mais on ne le vit pas. Et ça, c'est une action d'une fausse doctrine propagée par des faux prophètes dangereuses. Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est vraiment la grâce, valeur absolue. Jean 5, 24, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Ce que je vous dis là, le message de faire attention aux fausses doctrines, aux faux prophètes, à tout ce qui peut nous amener ailleurs, pourrait nous amener dans une attitude légaliste. Encore, on va conformer nos actes pour essayer d'être conforme à ce qu'on pense. Et le Seigneur dit non, reçois ma grâce, tout est grâce, reçois-le. Tu ne peux vivre conduit par mon esprit que si tu le reçois, et qu'une fois que tu l'as reçu, tu te laisses transformer. Si tu essayes de fabriquer, ça ne va pas marcher. Donc simplement, en résumé, pour ça, les faux prophètes, il y en a. On en est peut-être. On en est peut-être, parfois. Ce qui est important, c'est ce qui, en moi, m'empêche de vivre selon le royaume de Dieu. Ça, c'est important. Ce qui m'empêche d'entrer par la porte étroite. Ça, c'est important de le savoir. Ce qui m'empêche... Non pas seulement par ma pratique ecclésiale, mais dans ma vie de tous les jours, que Jésus dise, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes. Moi, j'ai envie qu'il me dise ça, j'ai pas envie qu'il me dise, je t'ai jamais connu. Même si j'ai fait des tas de belles choses pour lui. J'ai envie qu'il me dise, je te connaissais, parce que tu me connaissais. On s'est parlé. On avait une connexion ensemble. Allez, viens, t'es à la maison ici. Tu as agi des choses que je t'ai mis à l'intérieur. Alors, luttons efficacement et le plus puissamment possible avec les armes spirituelles contre les paradigmes, les pensées, les forteresses qui en nous empêchent d'être à l'image du roi, et ne cherchons pas tant à pointer du doigt celui qui peut-être incarne quelque chose qui nous dérange, en oubliant que les trois autres nous pointent nous. Hein. Quand on pointe du doigt quelqu'un, ces trois-là, c'est moi qui pointe. Donc n'oublions pas ça, et faux prophètes, oui, il y en a, on les connaît, mais en nous, c'est autre chose. Que le Seigneur nous aide à vivre ça. Amen.